Flaherty, il exerce un ministère de théologien et de commentateur. Il enseigne notamment la théologie dans divers centres de formation sacerdotale, collaboré comme expert à la rédaction de plusieurs documents du magistère, notamment il a participé à la rédaction du catéchisme et puis de la clarification romaine sur le filio pué. Il est auteur de nombreux ouvrages de théologie de spiritualité. Et il est actuellement en année sabbatique qui lui permet de travailler à d'autres ouvrages de théologie. Voilà, et puis donc il nous propose un regard explicitement à la théologie dogmatique ce matin sur notre thème de la paternité. Merci beaucoup.
Merci. Alors je voudrais déjà un peu cadrer mon propos de ce matin. Effectivement, c'est un propos de théologie dogmatique, systématique, vous pouvez appeler-le comme vous voulez, mais dans laquelle évidemment le théologien doit synthétiser, le donné révélé et essayer de le comprendre, l'interpréter, le comprendre, le donné révélé qu'il reçoit par l'écriture, par la tradition, par le magistère. Je veux dire par là que je vais beaucoup puiser, bien sûr, dans l'écriture, mais d'une manière un peu différente, peut-être, que celle des biblistes, à proprement parler. Hein. Ce qui ne veut pas dire que j'ignore, ou que je mets encore moins que je méprise le travail exégétique et biblique. Mais l'objet formel, comme disaient les scolastiques, le regard, l'approche, la méthode de la théologie dogmatique est différente. Et donc on lit de manière synthétique différents moments de la révélation dans l'écriture et son interprétation dans la tradition et dans le magistère subséquent. Donc voilà, pour que je dise cela, pour que certains ne soient peut-être pas étonnés que j'aborde en faisant de grandes enjambées, parfois dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Une des choses qui frappe le plus quand on parle des images paternelles à propos de Dieu, c'est que ce Dieu Père, ce Dieu qui va se révéler comme Père, la Genèse nous dit d'entrée de jeu que l'homme et la femme, le couple, sont à l'image de Dieu. Homme et femme, il les créa, son image, il les créa. Or, s'il y a quelque chose qui caractérise la révélation biblique, c'est que Dieu est étranger à la distinction des sexes, à la sexualité. Dieu est absolument séparé. C'est un des aspects par lesquels s'affirme la transcendance de Dieu dans la révélation vétérotestamentaire, c'est que Dieu est séparé, entre autres, des créatures, par le fait qu'il est totalement étranger à la polarité sexuelle. Donc, Dieu, d'une certaine manière, n'est ni père ni mère, en tout cas n'est pas dans la distinction père-mère, en tant que la distinction père-mère implique la distinction des sexes. Et pourtant, à son image, il les créa, homme et femme, il les créa. Alors comment comprendre cela? Certains l'ont compris dans l'histoire des doctrines de la tradition chrétienne, comme étant une polarité masculine, paternelle, et une polarité féminine en Dieu. Il y a là quelque chose qu'on trouve dans les courants gnostiques, et c'est pour ça qu'il faut rester le théologien restera assez réservé, dans les projections trop rapides d'images familiales, conjugales, à l'intérieur de la Trinité. Hein, par exemple, disant le Saint-Esprit, c'est le pôle féminin en Dieu, le Père est le pôle masculin, etc. Vous voyez le genre de choses que ça fait. Si le Saint-Esprit est le pôle féminin en Dieu, à ce moment-là, en quelque sorte, vous avez une espèce de nuptialité entre le Père et l'Esprit qui donne le Fils. Enfin, bon, on est dans un roman familial, ça a parfois été reproché à Ourson Balthazar d'avoir un peu trop projeté des choses qui sont dues créer trop directement dans le domaine intratrinitaire. Il y a eu un grand débat entre lui et Rahner à ce sujet fameux. Quoi qu'il en soit, je veux dire, ça veut dire qu'il faut rester vigilant et pourtant il faut prendre au sérieux la parole de la Genèse. Homme et femme, il les créa, son image, il les créa. Mais la manière dont la tradition subséquente est déjà biblique, hein, quand je dis tradition ici, c'est déjà dans l'Ancien Testament, comment cela va-t-il être compris? C'est que ce Dieu totalement étranger à la sexualité, donc qui n'est pas père, qui n'est pas époux, eh bien, va apparaître pour sa création comme père, comme, nous verrons aussi, comme mère d'ailleurs, et comme époux. Donc, ce qu'il n'est pas en lui-même est néanmoins expressif. Cette conjugalité, cette paternité, etc., que Dieu n'a pas dans sa vie intradivine, est néanmoins hautement expressif de la relation qu'il établit avec ses créatures. Et nous allons voir de manière comment ces images vont entrer successivement en jeu dans la révélation vétérotestamentaire déjà. D'abord la paternité, puis simultanément la conjugalité et la maternité. Et je pense que cet ordre-là, le fait que la paternité vienne en premier, est intéressant et permet déjà de dégager des choses importantes pour notre propos. Pourquoi la paternité vient en premier? Quand on lit l'Ancien Testament, dans les livres de la loi de Moïse, etc., ce qui apparaît premier, c'est Dieu comme Père. Nous verrons d'ailleurs que c'est le Dieu des Pères. Hein? Dieu Père, c'est inséparablement le Dieu des Pères, le Dieu des Patriarches, Dieu de mon Père Abraham. C'est très curieux. Pourquoi? Eh bien, parce que en arrachant, comme on l'a vu hier dans la Genèse, en arrachant Abraham à sa paternité naturelle, d'une certaine manière, hein, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père, Dieu le fait passer sous sa paternité et fait de lui un père selon une autre modalité, et qui est celle d'être origine du peuple de l'élection. N'oublions pas que le peuple d'Israël, qui est issu d'Abraham, ne préexiste pas. Hein. Abraham n'était pas juif, n'était pas hébreu même, quand il a été choisi, appelé par Dieu. C'est de lui que c'est tiré. C'est le peuple de l'élection. Ce n'est pas le peuple élu, comme on dit, parce que le peuple élu signifierait que ce peuple préexiste à l'élection. Or, Israël ne préexiste pas à l'élection. Il découle de l'élection d'Abraham. Donc, ce que nous avons, c'est une paternité tout à fait originale qui va se traduire par un certain nombre de choses. D'abord, dans la vie des patriarches, Sarah est stérile, ça a été dit hier, mais Rebecca était aussi stérile et Rachel était aussi stérile. Ça nous est dit de manière moins thématisée que pour Sarah, mais à chaque fois, c'est rappelé qu'elle était stérile. Donc, d'une certaine manière, c'est cette paternité des patriarches, n'oublions pas que c'est le Dieu des pères, cette paternité des patriarches sur le peuple qui sort de là, sur la descendance d'Abraham, est déjà particulière. Elle est particulière. Elle est miraculeuse. Je ne dis pas qu'elle n'est pas virginale, hein, mais elle est miraculeuse quand même, la guérison de la stérilité. Et ensuite, les lois, je dirais, de la primogéniture sont bouleversées. Nous l'avons vu pour Ismaël et Isaac, pour Ésaü et Jacob, et d'une certaine manière aussi pour Joseph, qui est un cadet, hein, c'est pas le Benjamin par définition, mais c'est quand même un cadet, c'est le fils de Rachel, qui sauve ses frères aînés à travers cet épisode étonnant et paradoxal du fait qu'il soit vendu et même abandonné à la mort, et en Égypte, et ensuite les sauve. Donc on a, vous voyez, le passage ne se fait pas naturellement, et donc Dieu par là signifie que dans cette paternité nouvelle, cette paternité ne passe pas par le vouloir de l'homme d'abord. Nous avons dit que, ça a été dit hier par exemple, que Isaac préférait Ésaü. Isaac préférait Ésaü. Or, ce n'est pas Ésaü qui est choisi. Vous voyez, donc, naissance miraculeuse, conception miraculeuse, descendance selon des lois paradoxales. Et la troisième chose, c'est que c'est une descendance malgré tout plus spirituelle que charnelle, ou dans lequel il faut que le charnel soit au service du spirituel. Cela apparaît très clairement, par exemple, dans les lois que donne, les commandements que donne Dieu à Abraham à propos de la circoncision. Celui qui est né de toi, mais qui n'est pas circoncis, sera retranché de ta parenté. En revanche, le fils de l'étranger qui est né sous ta tente et qui est circoncis, celui-là sera considéré comme membre de ta parenté. Je dis ça parce que c'est quand même très important et ça fonde des choses pour la théologie d'Israël. Nous avons là, aujourd'hui, effectivement, on dit que né juif, les rabbins disent né juif, que celui qui est né d'une femme juive. Mais ça, c'est toute une histoire qui a fait que le peuple juif s'est replié, en grande partie à cause de la persécution chrétienne, sur cet aspect, je dirais, de pure conservation quasiment physique du peuple par la procréation. Mais ce n'était pas le cas. Israël a intégré tout au long de son histoire des étrangers. Et comme le rappelle, entre autres choses, la généalogie du Messie avec ces femmes étrangères, ces trois femmes étrangères que sont Rahab, que sont Ruth et la femme du riz, qui est le Hittite. Donc, rappelle que sans cesse, la possibilité d'entrer dans cette paternité d'Abraham se fait selon une modalité qui est suprahumaine. Pas totalement suprahumaine, cela sera réservé à l'entrée dans la nouvelle alliance, dans la plénitude messianique du peuple. Mais déjà, néanmoins, avec un charnel complètement au service du spirituel. Et on ne peut pas revendiquer. Et rappelez-vous les textes très forts dans le Deutéronome, mon père était un araméen errant. Par ton origine, ta mère était amorite et ton père était hittite. C'est-à-dire, ne va pas chercher ton origine, ça n'a aucun intérêt. Et tu es de sang mêlé. Vous voyez, on est très loin des mythes qui président en Égypte ou à Babylone, le fait que le pharaon est fils du dieu et le peuple en quelque sorte découle des pharaons, etc. Enfin, une espèce de, vous voyez, de théogonie, cosmogonie et origine du peuple. Non, Israël ne descend pas, c'est pas par la paternité humaine qui, par elle-même, par sa chair ou par sa volonté humaine, a la possibilité de transmettre cela. C'est dans la mesure où, par la circoncision, par l'alliance, on entre dans l'obéissance de Dieu, on devient peuple serviteur de Dieu, qu'à ce moment-là, on entre dans la paternité du Dieu d'Abraham. Devenir fils d'Abraham, c'est prendre comme père le Dieu d'Abraham. le Dieu des pères. Le Père, c'est le Dieu des pères. Vous voyez, une paternité qui fonde toute paternité humaine. Alors, pourquoi c'est cette image de la paternité, dont je viens d'esquisser très très rapidement pour vous la phénoménologie biblique, pourquoi est-ce que c'est cette image de la paternité qui est la première? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus beau de partir d'une image féminine, et que l'homme soit en quelque sorte porté par Dieu dans son sein, en quelque sorte, pour venir au monde, être créé? Eh bien non, parce que c'est là où je pense qu'apparaissent déjà les axes de ce qu'on appellera plus tard une théologie de la création. Qu'est-ce que cela veut dire? L'homme, l'image masculine, l'image de la paternité au masculin, nous indique, nous rappelle que l'homme procrée à l'extérieur de lui-même. Ça a été dit à plusieurs reprises hier et par différents biais anthropologiques ou bibliques. L'homme procrée à l'extérieur de lui-même, dans une extériorité. Il n'y a pas d'immanence d'être donnée au départ entre l'homme et son enfant. Alors qu'avec la femme, il y a la conception déjà en elle, et la gestation en elle aussi pendant 9 mois. Pourquoi donc la Bible a privilégié cette image paternelle? Eh bien justement parce que avec la révélation du Dieu créateur dans la Genèse et dans les livres de la loi de Moïse, nous sortons de la théogonie. Nous avons dit que nous sortions d'une divinité à polarité masculine et féminine, qui est au départ pratiquement de toutes les mythologies. Dans toutes les mythologies, vous avez une sorte de couple fondamental, qui est souvent d'ailleurs le ciel et la terre, donc la terre, élément féminin, le ciel, élément masculin, et puis de ce couple fondamental, de cette polarité divine fondamentale masculine et féminine, sortent des hiérogamies, des mariages entre les dieux et le polythéisme. Le polythéisme, évidemment, découle directement de cela. Ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Vous prenez la théogonie d'Hésiode, etc., vous avez toute une descendance divine, parce que cette polarité masculine et féminine permet donc une procréation. Donc, les dieux, les hommes et le cosmos lui-même sont une théogonie. Et au fond, Dieu ne se distingue pas réellement du cosmos. Dans toutes les cosmologies, les mythologies cosmologiques, c'est cela. On a un dieu cosmique, un dieu qui est lié au cosmos, et même chez les philosophes grecs, qui pensent le plus fort l'actualité pure de Dieu, comme Aristote par exemple, ou le bien de Platon, bien séparé. Néanmoins, Dieu n'est jamais pensé découplé comme étant totalement séparé. Autre chose, c'est que le monde lui soit totalement dépendant ontologiquement, mais il n'y a pas Dieu sans le monde, ni le monde sans Dieu. C'est absolument lié, c'est couplé, c'est le Dieu cosmique. Or, avec la révélation de la création, il y a cette totale indépendance, ce que la théologie bien postérieure appellera l'acéité divine, c'est-à-dire que Dieu il est par lui-même, et totalement par lui-même, et donc totalement indépendant du cosmos. Et donc la paternité exprime beaucoup mieux cela, c'est-à-dire que Dieu ne donne pas son être dans la création. Il cause l'être, bien sûr, mais c'est un être des créatures, un être créé. C'est pas un être divin. C'est pas un morcellement de l'être divin, la dépendance ontologique de des créatures au créateur. Sinon, on est dans le gnosticisme, justement. cet éclatement, cet émiettement du divin dans la création, c'est typiquement le gnostique et nous ne sortons pas de la dimension mythologique, de la dimension païenne. Alors que avec le Dieu créateur, il est dans le buisson ardent, c'est la flamme qui brûle le buisson sans le consumer, mais la flamme n'est pas le buisson, même si elle habite le ciel, si elle crépite au cœur du buisson, c'est autre chose. Donc l'être divin qui est à l'origine et qui est la cause, la source, appelez-la comme vous voulez, de l'être créé, cet être divin est différent de l'être créé. Et cela évidemment s'exprime beaucoup mieux à travers l'image masculine qu'à travers l'image féminine, parce qu'il n'y a pas d'immanence, il y a au contraire séparation. Et ça a été rappelé hier que Dieu crée en séparant. Il crée en séparant, et la première séparation fondamentale, c'est l'acte créateur premier au commencement. Dieu créa le ciel et la terre. Cette première séparation entre l'être incréé et l'être créé. Il y a séparation, ce n'est pas, il y a participation. Mais voyez, la participation n'est pas simplement le fait d'avoir part à un être divin un peu diminué. Ça sera la grande difficulté de la théologie de la participation, et les pères auront beaucoup à lutter avec cela, en particulier, nous le verrons, dans la théologie trinitaire, pour ne pas avoir cette conception de la participation, où avoir part, c'est avoir une part d'eux. Donc, si j'ai part au divin, ça veut dire que j'ai je reçois une part de Dieu. Un Dieu diminué, mais du Dieu quand même, du divin. Non, l'être créé, c'est un être qui dépend totalement de Dieu, qui est causé par lui, qui, dans ce sens-là, c'est son agir créateur qui est au cœur de l'être créé, mais ce n'est pas son être divin. Le monde n'est pas divin. Pour nous, ça va de soi, mais c'est une révolution absolument incroyable. Vous avez d'un côté toutes les mythologies et de l'autre côté, vous avez la tradition biblique. Ça trace la frontière absolue entre la révélation du Dieu vivant et puis les mythologies. Ce que l'homme peut se faire comme représentation de Dieu. C'est pour cela que l'image féminine ne pouvait pas être première. Ce n'est pas que Dieu serait plus masculin que féminin. La Bible ne dit jamais cela. Dieu n'est pas plus masculin que féminin. Les deux sont des images qui disent quelque chose de Dieu. Et ce que dit l'image masculine, c'est que Dieu est notre origine, mais dans une séparation avec notre être. Notre être dépend de lui, s'origine en lui, mais n'est pas son être. Il y a une différence ontologique fondamentale, c'est même la différence ontologique fondamentale entre le créateur et la créature. Ce n'est que plus tard que vont entrer les images d'immanence. Quand aura été assis ce monothéisme créateur de la création et de l'alliance. Parce que c'est seulement si Dieu nous donne un être différent du sien qu'il peut y avoir une alliance entre deux partenaires. Vous comprenez que si nous sommes un morceau de lui, nous n'avons pas de subjectivité. Je veux dire, nous n'avons pas un être par nous-mêmes. Dieu nous donne l'être, mais nous le donne tel qu'il est nôtre. Il est nôtre et nous l'exerçons comme un sujet. Et donc, nous pouvons entrer en réciprocité, en alliance avec lui. Et la théologie de la création et la théologie de l'alliance sont absolument liées l'une à l'autre. L'alliance n'est possible que parce qu'il y a création, et la création est pour l'alliance. est déjà une première alliance, puisque tout de suite, nous avons l'alliance avec Adam, cette alliance primordiale en quelque sorte, puisque Dieu lui donne déjà un commandement, lui fait une promesse, etc. Nous sommes dans un contexte d'alliance déjà dans la Genèse. Quand apparaissent les images d'immanence? Eh bien, le grand tournant, je pense que je dis des choses archi-connues de tout le monde ici, c'est le livre d'Osée. C'est le livre d'Osée qui va faire entrer à la fois les images de la conjugalité, donc de l'immanence unissant l'homme et la femme dans le couple, dans l'acte conjugal même, je dirais, et les images de la maternité de Dieu sur les hommes. Surtout la conjugalité, hein, dans le livre d'Osée, mais nous allons voir que dans le... C'est dans le livre d'Osée qu'apparaissent déjà un terme clé qui a été évoqué hier par l'une d'entre vous et reprise avec réponse ici de je ne sais plus maintenant lequel de ceux qui étaient à la table ronde a répondu en disant, en rappelant, oui, c'était le Winston qui a répondu. Voilà, qui a dit, mais rendez-vous bien compte que c'est une image féminine, c'est bien l'utérus, le rehem, les haramines, les entrailles de miséricorde, c'est pas les entrailles au sens simplement des viscères, c'est vraiment l'appareil génital féminin, c'est quand même extrêmement féminin. Or, ça apparaît pour la première fois dans Osée. Je dis ça, peut-être que quelqu'un va me dire que c'est déjà avant, mais je crois que vraiment que ça paraît attribué à Dieu. Dans un passage célèbre que je vous relis, au chapitre 11, versets 8 et 9. « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm? Te livrerai-je, Israël? Comment te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Séboïm? » Ce sont, vous savez, les villes détruites avec Sodome et Gomorrhe. Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. Ah, amen, c'est là qu'elles apparaissent. Dieu parle de ses entrailles, de son utérus, excusez-moi, c'est ça. Donc, bien sûr, un anthropomorphisme, hein, nous sommes des images. Ça veut dire que Dieu a dans la richesse suréminente et surabondante et transcendante de son comportement divin, quelque chose dont nous avons un reflet dans les entrailles qu'a une mère pour son enfant. Parce que la mère a porté l'enfant pendant 9 mois, mais ça laisse une trace telle que toutes les mères vous diront que quand il arrive quelque chose de grave à son enfant, elle le sent dans ses entrailles. C'est quelque chose d'extrêmement viscéral, parce que c'est justement, il est resté comme une immanence qui, psychologiquement, de la part de la mère et de la part de l'enfant, ne s'efface pas comme cela. Alors que la paternité est toujours à construire, et c'est très beau, parce qu'au fond, c'est l'alliance. L'alliance est toujours à construire, de part et d'autre. Les alliances se renouvellent, se brisent, se refont. Eh bien, prenez la paternité humaine est toujours en chantier. La paternité humaine et notre relation avec Dieu, pareil, dans son aspect, justement, de l'alliance. En revanche, il y a un autre aspect de Dieu que nous allons voir, où à ce moment-là, ce n'est plus le Dieu créateur, le Dieu qui pose son enfant dans une autonomie, mais c'est le Dieu ensuite qui accompagne cet enfant sur sa route. C'est le Dieu provident. C'est le Dieu provident qui apparaît dans l'image maternelle. Une femme oublierait-elle son enfant? Même si une femme oubliait son enfant, moi je ne t'oublierai jamais. C'est des choses... je ne dis pas qu'un père ne peut pas les sentir, mais c'est tellement féminin, la preuve c'est que l'image féminine vient spontanément. Et vous voyez, ça commence avec ce passage du livre d'Osée. Mon cœur en moi est bouleversé, c'est-à-dire qu'au moment où Dieu veut châtier Israël, Il se ressaisit parce que ses entrailles sont bouleversées. Et donc apparaît à ce moment-là l'élément féminin. Non pas qu'il y ait en Dieu un élément masculin, un élément féminin, mais ce sont les images qui nous permettent, nous, de comprendre l'origine divine qui transcende paternité et maternité et en même temps reflète quelque chose et du père et de la mère. Petite parenthèse ici, la tradition des pères, les docteurs du Moyen Âge, saint Thomas d'Aquin parmi eux, ça a été rappelé ici, ont la connaissance embryologique de leur temps. Et donc une représentation sommaire et même fausse sur certains aspects de la participation de l'homme et de la femme. Vous savez que ce que les pères pensent à ce niveau-là, et que saint Thomas aussi pense, c'est que tout l'élément, l'origine du corps de l'enfant vient entièrement de la semence masculine. C'est la semence masculine qui porte en elle déjà toute la détermination du corps de l'enfant. Et la mère est une armoire chauffante, excusez-moi l'expression, mais c'est ça. C'est-à-dire c'est un lieu d'accueil et nourricier, mais elle n'apporte rien. Et d'où le fait que le péché originel est uniquement vu du côté d'Adam et non d'Ève, même si Ève, on l'accable de beaucoup de responsabilités, mais l'aspect originel et originant du péché vient uniquement d'Adam et non pas d'Adam et d'Ève. C'est faux, on ne peut absolument pas tenir ça évidemment aujourd'hui. Il y a une dimension de co-principe du corps, de l'homme et de la femme, au plan génétique. Ils apportent moitié-moitié. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être probablement ici des gens qui connaissent mieux ça que moi, quelqu'un m'a dit non, mais il y a quelque chose, on pense aujourd'hui qu'il y a quand même quelque chose qui vient du côté de l'homme et qui est, je crois, le sexe de l'enfant, qui c'est le spermatozoïde qui l'apporte. Ça me dépasse, excusez-moi, mais je pense quand même qu'il y a une... Voilà, peut-être qu'il y a des choses spécifiques de part et d'autre, mais disons, c'est vraiment de part et d'autre. Je veux dire, on ne peut pas penser que le corps de l'enfant vient uniquement de l'homme. Et ça, du coup, ça ouvre la porte à tout ce que Pierre Benoît nous a dit hier sur le fait qu'il y a beaucoup plus de co-responsabilité, réciprocité du couple dans la parentalité que simplement la paternité comme étant portant la détermination à elle seule du corps. Donc ça nous permet de comprendre pourquoi Dieu, qui transcende la parentalité humaine, à la fois de négation et d'éminence, selon les catégories habituelles de l'analogie en attribution divine, eh bien Dieu est à la fois n'est ni père ni mère, et en même temps, tout ce qu'il y a de bon dans le père et dans la mère se retrouve en lui de manière suréminente. Voilà ce que dira la théologie, je dirais la plus classique aujourd'hui, simplement qui tient compte aussi par exemple, d'une meilleure connaissance de l'origine du corps humain. Il a été dit hier que les parents étaient source de l'être. Le théologien dogmatique est un peu gêné parce qu'il est source du corps, à proprement parler. L'instrumentalité ne passe que pour le corps. La création, vous savez, de l'âme, c'est un dogme de foi, c'est une vérité enseignée par l'Église, est immédiatement créée par Dieu. Immédiatement créée par Dieu. Ce qui ne veut pas dire, ce qu'on lui fait dire parfois, que c'est créé au moment de la conception. Le magistère ne se prononce pas sur ça. Ça veut dire simplement que c'est créé directement par Dieu. Ça ne passe pas par les parents. Mais évidemment, c'est une âme qui est créée pour ce corps qui, lui, vient des parents. Donc tout le conditionnement substantiel que va apporter le corps va affecter l'âme, évidemment. Mais l'âme en ce sens-là, est fille de Dieu. Hein. Et Dieu est père des esprits de manière immédiate. Alors elle devient fille de Dieu par la grâce, mais elle a une filiation ontologique en tant qu'âme spirituelle. Cette formule de Dieu Père des Esprits, vous la trouvez dans l'Épître aux Hébreux à deux reprises. Quand il est question de notre filiation, Dieu ne nous traite pas comme des enfants naturels, mais comme des enfants légitimes, etc., parce qu'il est le Père des Esprits. Dieu ne peut pas adopter ni une pierre, ni une vache, ni un arbre, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on soit dans le domaine de l'esprit. L'esprit déjà pose une certaine filiation par rapport à Dieu. Comme les philosophes l'ont vu, Plotin le dit, Plotin qui est en dehors de la révélation, reconnaît que par l'esprit, il y a une certaine référence, une certaine relation. Et c'est fondé, toute la mystique plotinienne, toute la mystique néoplatonicienne est fondée sur cette dimension fondamentale où l'être spirituel a quelque chose, alors qu'il n'est pas du tout un morceau du divin. Alors chez Plotin, ça reste souvent émanatiste, mais il y a là quelque chose dont on peut garder une certaine trace, comme Augustin le gardera, le thème de l'image. L'homme est créé à l'image de Dieu par son esprit. C'est pas, son corps l'est, mais indirectement, parce qu'il est, il est informé, animé par cet esprit qui, lui, a une certaine parenté avec un Dieu qui est esprit. Je sais qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup, nous sommes des post-Nietzschéens qui l'ont beaucoup valorisé le corps, et c'est très bien, mais attention, ça ne se fasse pas au détriment de l'esprit, car nous nous ignorerions une part immense de la tradition chrétienne, qui peut-être doit être réinterrogée par rapport à son platonisme, mais qui en même temps véhicule des choses qui se trouvent elles-mêmes aussi dans l'Écriture. On ne peut pas la télescoper comme ça. Alors, pourquoi, comment se fait ce passage à l'immanence? L'immanence de la providence, l'immanence de la compassion, nous avons dit hier, de la tendresse. L'immanence, c'est le fait que Dieu doit d'abord poser l'homme en face de lui, comme autre que lui, avec un autre être que le sien. Mais tout de suite après, ce n'est pas pour l'abandonner, c'est pour le conduire à la communion. Si on restait uniquement dans la paternité, on resterait dans une extériorité. La paternité est là pour nous conduire à la conjugalité. Alors on me dit, oui, mais vous êtes en train de brouiller tout ce que la psychologie nous demande de distinguer, et nous sommes dans quelque chose de bien étrange. Effectivement, c'est ce Dieu Père qui devient époux, c'est ce Dieu Père qui devient mère. Vous voyez, apparemment on pourrait dire, mais quel brouillage, la Bible nous fait un brouillage psychologique dangereux. Oui, mais on peut renverser le problème. Est-ce que finalement, tous ces interdits de l'inceste, parce qu'en fait c'est cela qui est derrière, hein, le père ne devient pas époux et le père ne devient pas mère, enfin, vous voyez, c'est des choses qui doivent rester très distinctes pour l'enfant. Est-ce que justement l'interdiction de l'inceste ne vient pas pour protéger la sphère divine? Parce que justement Dieu, qui transcende totalement le masculin et le féminin, donc la paternité, la maternité, la conjugalité, etc., est le seul qui peut être en même temps père, mère et époux. Et que c'est justement parce que ça lui est réservé, et toute la tradition mystique le comprendra comme cela, à la suite de la Bible, car tous les fondements de cette tradition mystique sont dans la Bible. Le texte charnière, c'est le Cantique des Cantiques. qui peut être lu au niveau premier du sens littéral, et puis que tout de suite la tradition déjà juive, pas seulement chrétienne, mais juive, va comprendre dans un sens mystique, comme je pense à la très belle thèse d'Anne-Marie Pelletier sur la tradition interprétative du cantique. Donc, n'ayons pas peur, ce qui, au plan humain, serait confusion perverse, au plan divin, indique justement un dépassement de transcendance et donc un domaine qui est propre à Dieu. Et c'est une très grande richesse de pouvoir tenir ces trois images fondamentales du divin, le père, ou la paternité, la maternité, la conjugalité. Et je pense qu'elles viennent un peu dans cet ordre-là. Paternité, maternité, pour montrer que cette paternité ne laisse pas l'enfant à lui-même. Et on voit apparaître ces images de maternité aussi dans le Deutéronome. Dans le Deutéronome où on voit comment Dieu guide Israël au désert comme, alors c'est très intéressant, comme un père guide son enfant et qui le prend et qui le soutient. Mais les images, on se dit, mais c'est un père ou une mère ? Parce que ce père qui soutient son enfant dans le désert pour qu'il ne se fasse pas de mal, etc., il se comporte en mère, vous voyez. C'est très intéressant, on a là des moments de glissement, de passage de l'un à l'autre. Je voudrais vous lire en conclusion de cette partie ce qu'écrit le catéchisme de l'Église catholique à ce propos, qui a un numéro qui me semble bien synthétiser des choses que je viens de dire. En désignant Dieu comme notre Père, c'est le numéro 239, et aussi on peut se reporter au numéro 370 du catéchisme. En désignant Dieu comme notre Père, le langage de la foi indique principalement deux aspects. Alors, c'est intéressant puisqu'on a posé la question, quels sont les attributs de la paternité ? Donc, réponse dans le catéchisme. Deux aspects, que Dieu est origine première de tout et autorité transcendante, et qu'il est en même temps bonté aimante pour ses enfants. Origine de tout est donc par là même séparé, comme père, mais en même temps bonté aimante pour ses enfants, ça va être l'image maternelle qui va apparaître. L'articulation des deux a été très bien mise en lumière dans la thèse à laquelle quelqu'un a fait allusion hier à Mgr Jean-Pierre Battu. Il vient de publier sa magnifique thèse, je n'aurai pas de mots assez élogieux pour dire tout le bien que j'en pense, qui s'intitule Pantocrator. Pantocrator, Dieu le Père Tout-Puissant dans la théologie anté-nicéenne, pré-nicéenne, avant Nicée. Elle a étudié donc chez les pères du 2e, 3e siècle. Le thème du Père Tout-Puissant, c'est dans le credo, hein, Pater Pantocrator, c'est le credo grec de Nicée-Constantinople, Dieu le Père Tout-Puissant, que veut dire Pantocrator ? Nous le traduisons par Tout-Puissant, mais en fait, le Père Battu montre que c'est en fait le Dieu qui porte tout dans son mystère de paternité. Parce que ce n'est pas Dieu Tout-Puissant, c'est le Père qui est Tout-Puissant. C'est-à-dire, Dieu est Tout-Puissant par sa paternité et par son dessein paternel que la Bible appelle un dessein bienveillant, eudoxien. Donc, c'est parce qu'il est, il a ce dessein d'amour et cette paternité d'amour qu'il c'est à l'intérieur de cela qu'il exerce la toute-puissance divine. C'est ce que les médiévaux, et c'est sur cela que termine la thèse de Jean-Pierre Battu, appelleront la potentia ordinata, c'est-à-dire le fait que ce n'est pas une toute puissance absolue comme le prétendront alors les nominalistes, mais une puissance ordonnée par une sagesse paternelle, bienveillante, aimante. Et donc Dieu ne s'amuse pas à déployer sa toute-puissance en dehors de cette ordination d'un dessein bienveillant qu'il a voulu comme cela. Et cela nous permet de sortir de bien des impasses. Et ce qu'est le livre du Père Battu est remarquable, parce qu'il nous montre comment cela se trouve déjà dans l'Écriture et dans la toute première tradition des premiers pères. Il explore cela avec énormément. Alors, il en avait tiré un livre plus bref, que de type spirituel, dont j'avais eu la joie d'écrire la préface. Il s'appelle « Dieu le Père Tout-Puissant », justement, qui est paru il y a quelques années, et qui est donné en quelque sorte comme la quintessence spirituelle de la thèse qui était déjà rédigée, mais dont il savait qu'elle mettrait quelques années à paraître. Donc c'est ce Dieu donc, qui à la fois crée quelqu'un dans l'autonomie, dans la différence, et en même temps l'accompagne, le conduit comme son fils, le soulève comme un nourrisson tout contre sa joue, vous voyez ces images extraordinaires, qui va conduire l'enfant vers la nuptialité. Et nous verrons le passage le plus beau de cela. Bon Dieu, j'ai laissé ma petite Bible dans mon sac, mais on va le retrouver de mémoire. Le chapitre 16 du livre d'Ézéchiel. Chapitre 16 du livre d'Ézéchiel est toute une relecture, merci beaucoup, de l'histoire d'Israël. Vous vous souvenez, c'est, je vous lis le début pour vous l'évoquer, un texte magnifique de relecture sapientielle de la destinée d'Israël dans l'histoire sainte avec Dieu. Je commence en 16:3. Ainsi parle le Seigneur à Jérusalem. Par ton origine et par ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amorite et ta mère hittite. Ne va pas chercher du côté de ton origine humaine. T'as rien de particulier, t'es un mélange comme tous ces gens du Moyen-Orient entre différentes races. À ta naissance, au jour où tu vins au monde, on ne te coupa pas le cordon, on ne te lava pas dans l'eau pour te nettoyer, on ne te frotta pas de sel, on ne t'enveloppa pas de linge. Nul n'a tourné vers toi un regard de pitié pour te rendre un de ses devoirs par compassion pour toi. Tu fus jeté en pleine campagne par dégoût de toi au jour de ta naissance. C'est-à-dire, tu n'étais rien du tout, espèce d'avorton qu'on a jeté comme ça. Et ça va être l'adoption. Vous voyez, le premier mouvement, c'est l'adoption, c'est-à-dire la création d'Israël. Je passais près de toi et je te vis, te débattant dans ton sang. Je te dis, quand tu étais dans ton sang, vis, et je te fis croître comme l'herbe des champs. Tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante et tu étais toute nue. Alors je passais près de toi et je te vis. Première étape, voyez, c'est l'époque des patriarches. C'est le moment où Israël n'est rien du tout. Et Dieu l'adopte, en fait son enfant. Remarquez que la filiation est adoptive. Uiotesia, en grec, dira le Nouveau Testament. Posé en qualité de fils. Kitheni. On n'est pas fils par droit de nature. Non. Tu es né de... Ton père était amorite et ta mère était hittite. Tu n'es pas d'origine divine. Personne n'est d'origine divine. Et au sens où les mythologies disent toutes, que tous les peuples et leurs rois, etc., sont d'origine divine. Non, Israël n'est pas d'origine divine. Mais Israël a été adopté. Et dans le premier temps, Israël ne peut que recevoir. Il n'est rien du tout. Et c'est l'époque des patriarches. Vous voyez que c'est là, l'image est purement filiale. Et vous allez voir comment on passe tout de suite à l'image nuptiale, qui correspond désormais depuis Osée à l'alliance du Sinaï. C'est depuis Osée que l'alliance du Sinaï prend une valeur nuptiale. L'alliance, ça suppose des partenaires qui se choisissent, qui se donnent, et c'est éminemment le cas dans le couple. Donc, tu te développas, tu grandis et tu parvins à l'âge nubile. Dieu lui avait dit « vie ». Eh bien, tu te développas, tu grandis, tu parvins à l'âge nubile. L'âge nubile, féminin. Cet enfant dont on ne savait pas le sexe au début, c'est un bébé, et ça n'intéresse pas de savoir trop le sexe, il apparaît, c'est une jeune fille. Tes seins s'affermirent, ta chevelure devint abondante, mais tu étais toute nue. Alors je passais près de toi et je te vis, c'était ton temps, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau et je couvris ta nudité. Je m'engageai par serment, je fis un pacte avec toi, l'alliance du Sinaï, et tu fus à moi. Je te baignais dans l'eau, vous savez que c'est très intéressant parce que le bain nuptial est probablement le substrat de notre baptême. Hein. Le baptême de Jean-Baptiste, il le conçoit comme le baptême pour préparer l'épouse à l'époux. Il est l'ami de l'époux qui doit présenter l'épouse à l'époux, l'épouse d'Israël à son Seigneur. Donc, je te baignais dans l'eau. C'est le texte de Paul dans les Éphésiens. Il voulait se la présenter comme une épouse. Il l'a lavée dans un bain d'eau qu'une parole accompagne, etc. Comme une épouse. Vous voyez, la dimension nuptiale du baptême, je vous renvoie à la belle thèse de Mgr Quatennens sur la dimension nuptiale du baptême chez Saint Jean Chrysostome. Je te baignais dans l'eau, je lavais le sang qui te couvrait, je toignis d'huile, voyez, toujours le bain qui va toujours avec l'huile parfumée, hein, ce qui donnera notre chrismation, notre confirmation. Je te donnais des vêtements brodés, des chaussures de cuir fin, un bandeau de lin et un manteau de soie, le manteau. On trouvera tout ce qui sera repris dans le baptême. Je te parais de bijoux, je mis des bracelets à tes poignets et un collier à ton cou. Je mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et sur ta tête un splendide diadème. Et c'est l'épouse dans toute sa splendeur. Tu étais paré d'or et d'argent, vêtu de lin, de soie et de broderie. La fleur de farine, le miel et l'huile étaient ta nourriture. Tu devins de plus en plus belle et tu parvins à la royauté. Tu fus renommé parmi les nations, ça correspond à l'époque davidique et salomonienne. Tu fus renommé parmi les nations pour ta beauté, car elle était parfaite grâce à la splendeur dont je t'avais revêtu. Mais, verset 15, mais tu t'es infatué de ta beauté, tu t'es prostitué, tu as profité de ta renommée, tu as prodigué tes débauches à tout venant, etc. etc. Nous entrons dans toute l'infidélité de la fin de la monarchie avec toute l'entrée des cultes païens, etc. C'est un texte extraordinaire où on a cette relecture à travers les articulations successives de la paternité, d'une paternité conduisant à la nuptialité. Mais justement, ce qui vous est apparu, c'est que pour conduire à la nuptialité, eh bien, il faut une dimension maternelle de Dieu, parce que cet enfant, il a besoin qu'on continue à s'occuper de lui. Le père est là pour assurer à l'enfant, ça a été dit hier, sa dimension d'autonomie, de séparation. La mère gardera toujours une attitude, qui d'ailleurs est parfois excessive et ça pose des problèmes, une attitude de protection. Parce que pour elle, son enfant, même quand il est devenu grand, nous le savons tous, notre mère nous regarde toujours comme ce petit qu'on a été et comme celui qu'il a été dans son sein. Et toute femme regarde un homme comme cela. Il y a toujours les hommes ne comprennent pas cela, la plupart du temps, nous ne comprenons pas que ce qui touche le cœur d'une femme, c'est de voir notre fragilité. Justement, ce que nous ne voulons pas lui montrer. Mais oui, mais parce qu'on a peur d'être manipulé aussi, ça peut être aussi Dieu de manipulation. Mais c'est vrai que c'est ce qui émeut la femme, c'est de voir cette fragilité, parce que ça lui rappelle le fait que tout homme a été un enfant, et donc est en quelque sorte aussi son enfant. Il y a toujours une certaine dimension maternelle de la femme, y compris vis-à-vis de l'homme qu'elle aime. Et c'est pas un des moindres problèmes d'arriver à équilibrer cela sans qu'elle ne fasse pas trop de son mari un peu son enfant, le ramène trop à une situation d'enfance, et ce qui provoque chez l'homme des défenses, et donc des éloignements ou un autoritarisme compensateur, etc. C'est très complexe, hein, l'interaction entre l'homme et la femme. Donc, vous voyez, le catéchisme va évoquer ici toute cette dimension de la tendresse maternelle de Dieu. Je continue la lecture du numéro 239, et je vais m'apprête à terminer. Cette tendresse parentale de Dieu peut être aussi exprimée par l'image de la maternité. Et ici, le catéchisme cite Isaïe 66, 13, « Comme un enfant que sa mère console, dit Dieu, moi aussi je vous consolerai. » Ou le psaume 131, verset 2, « Mon âme est en moi comme un enfant. » On dit souvent l'enfant sevré contre sa mère, mais ce n'est pas du tout l'enfant sevré. C'est l'enfant rassasié après avoir tété. L'enfant sevré, il n'a plus besoin de reposer sur le sein de sa mère. Il est sevré, il court, il mange par ailleurs, etc. Il est sevré, il ne tète plus. Là, il s'agit d'un enfant qui a tété, et vous savez, toutes les mamans qui ont allaité savent que souvent l'enfant, à la fin de la tétée, s'endort, parce qu'il est très bien, et il s'endort sur le sein de sa mère. Donc, mon âme est en moi comme un enfant, rassasié après avoir tété, qui s'est endormi sur le sein de sa mère. Qui indique davantage l'immanence de Dieu, l'intimité entre Dieu et sa créature. Le langage humain puise ainsi dans l'expérience humaine des parents, qui sont d'une certaine façon les premiers représentants de Dieu pour l'homme. Mais cette expérience dit aussi que les parents humains sont faillibles et qu'ils peuvent défigurer le visage de la paternité et de la maternité. Il convient alors de rappeler que Dieu transcende la distinction des sexes. Il n'est ni homme ni femme, il est Dieu. Il transcende donc aussi la paternité et la maternité humaine, comme le rappelle par exemple le psaume 27, verset 10, « Si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me recevra », tout en étant l'origine et la mesure de cette paternité, cette maternité, comme le rappelle saint Paul, en Éphésiens 3, 14, le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom, ou Isaïe en 49, verset 15, une femme cesse-t-elle de chérir le fils de ses entrailles, même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Et le catéchisme conclut par cette parole qui, je crois, vient de Tertullien, personne n'est père comme les dieux. Personne n'est père comme les dieux. Justement parce qu'il intègre toutes les richesses de la paternité et de la maternité pour conduire à une nuptialité qui est elle-même mystérieuse, qui n'est plus d'ordre charnel, mais qui est probablement ce à quoi l'être humain aspire à travers l'amour humain et à travers lui-même l'union de la chair. Je crois qu'il faut renverser les choses, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement par une espèce de sublimation, comme le voulait Freud, mais c'est que très profondément, dans l'aspiration affective et même sexuelle de l'homme, dans la mesure où la sexualité humaine est toujours commandée par l'affectivité, il y a le désir profond de trouver cette communion nuptiale avec un Dieu qui est le seul qui peut nous épouser de cette manière, parce qu'il nous épouse en même temps à travers paternité et maternité. C'est-à-dire qu'il nous, Et nous sommes totalement enveloppés de tendresse. C'était les fameuses deux mains du tableau de l'enfant prodigue auquel on a fait allusion hier. Il nous enveloppe à la fois, il nous fait exister dans notre autonomie, dans notre responsabilité. Il nous enveloppe de sa tendresse, mais en même temps, il nous attire à lui comme un époux attire son épouse. Et au fond, c'est l'être humain dans sa féminité fondamentale dont parlait Balthazar dans la théologie de l'histoire en particulier, ce qu'il appelle la féminité du créé, aspire à être épousé par Dieu. L'être humain aspire à cette communion avec Dieu où il ne cessera pas d'être lui-même, parce que ça ne sera pas une communion de fusion. Et pour cela, la Bible nous fait introduire utilise tous les registres de la richesse anthropologique de l'être humain dans sa différence sexuelle. Voilà, je m'arrête ici, vous laissant la possibilité de creuser cela, en particulier à travers les différents passages de la Bible que cite le catéchisme.
Merci beaucoup, Père. Alors, nous avons un moment de pause, café, la librairie sera ouverte. Ceux qui seraient présents aujourd'hui seulement et qui ne seraient pas passés au stand d'inscription sont invités à le faire. Je précise aussi une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure à propos des questions, c'est que pour des questions des contraintes de transport, les intervenants de la table ronde de ce soir ne sont pas forcément les conférenciers du jour. Par exemple, Père Gary ne sera pas présent à la table ronde. Donc, quand vous posez des questions directement adressées à un intervenant perdent peut-être un petit peu de leur pertinence aujourd'hui. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions transversales auxquelles nos intervenants de ce soir pourront répondre généreusement. Donc, nous avons un quart d'heure de pause et ensuite, nous nous retrouvons directement en bas pour une présentation, une introduction à l'exposition de tableaux. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Possible.